bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour à tous, bienvenue dans la bande originale. Toujours pas de Nagui, mais tant mieux, on s'y fait. Profitons-en, il y a Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Guillaume
Bouquiz. Oui, absolument.
Albert Algo.
Bonjour.
Dans la dernière demi-heure, Tanguy Pastureau pour la maltraitance de la France. Et bien sûr, à mes côtés, la douce Leïla Kadour-Boudadi.
Salut Daniel Morin, bonjour à tous. Et notre invité aujourd'hui est Jean-Marie Perrier. Bonjour Jean-Marie, soyez le bienvenu. Comment allez-vous ce matin ?
Je me défends. J'ai raison d'être sur vos gardes.
En tout cas, vous êtes toujours aussi élégant, toujours aussi radieux. Il y a un secret. Parce que quand je vois mes camarades autour de la table qui ont la moitié de votre âge...
C'est l'Aveyron, son secret. C'est l'Aveyron d'une part et des années d'études devant le miroir d'autre part.
Vous venez nous voir Jean-Marie pour une exposition photo à la Galerie 12. Voilà, à Paris. Fashion Galaxy, où on peut voir quelques-uns de vos clichés et pas n'importe lesquels. Il s'agit de clichés de grands couturiers français, mise en scène de la plus belle des manières. Qu'est-ce qui a présidé à ces clichés ? Quel a été le principe, la motivation ?
Ma sœur.
Pourquoi votre sœur ?
Ma sœur Anne-Marie dirigeait le journal Elle et c'est elle qui a eu l'idée, parce que moi je vivais aux États-Unis. Et c'était bien comme ça au départ, mais pendant 10 ans, ça finissait par faire long. Hein. Car je suis comme tous les jeunes Français de l'époque. En réalité, je me suis fait avoir, parce que j'ai toujours... On était tous là à adorer l'Amérique comme des fous. Et j'ai compris en y vivant 10 ans que, en fait, c'est les films américains que j'aimais plus que l'Amérique. Donc j'étais là-bas et elle m'appelle, elle me dit « qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis « oh, écoute, etc. » Elle me dit « écoute, t'as qu'à revenir et t'as qu'à redevenir photographe. » Puisque j'ai un journal. Et c'est vrai, je n'en avais pas fait depuis 20 ans des photos.
C'est bien d'avoir une sœur comme ça.
Oui, c'est pas mal.
C'est pratique.
Et malheureusement, Sardou me l'appliquait, mais bon. Mais voilà, ça m'a permis de refaire des photographies, surtout dans les mêmes conditions qu'avant. Parce qu'en fait, dans les années 60, j'avais toute liberté d'action, aucune limite ni de moyens ni d'imagination.
Vous êtes le grand photographe des yéyés, vous avez capturé dans votre appareil toutes les grandes stars.
Oui, je me retrouve dans la même situation que 25 ans avant. Donc c'était magnifique parce que là, en plus, il s'agit de couturiers. Alors les couturiers, c'était très intéressant parce que les couturiers, au fond, c'est un peu les rockstars de l'époque, dans les années 90. Parce que toutes les rockstars, ils ont des femmes, des gosses. Hein, c'est des bourgeois, quoi. Tandis que eux, personne ne vit comme Saint-Laurent ou Jean-Paul Gaultier ou Lagerfeld.
Ils vivaient comment, Saint-Laurent, Lagerfeld ?
Ils inventaient leur vie, ils avaient les moyens d'inventer leur vie et l'imagination et des vies hors système, si vous voulez. Exactement comme le faisait Mick Jagger ou Johnny Hallyday.
C'est quoi les folies
années...
de ces couturiers qui à cette époque-là vous,
c'est
vous
pas
avez
les
pu
mêmes.
Voir
c'est pas du tout les mêmes folies parce que d'abord ils travaillent énormément ces gens-là. Je veux dire,
les autres c'est des feignasses alors.
Non, c'est pas des feignasses, mais c'est des mômes à qui ça arrivait.
Sans très
qu'il
jeune.
Sans qu'il l'ait vraiment décidé. En plus, c'était pas sérieux, si vous voulez. C'était pas du business comme maintenant. C'est-à-dire que là, à partir d'où on parle, quand même, la mode, c'est quand même ça apporte énormément de travail à beaucoup de gens. C'est une grosse industrie. Et puis, ça représente la France partout. Donc, les mecs, ils sont pas là pour rigoler en même temps. Hein. Il faut que ça produise. Donc, c'est insensé. L'emploi du temps d'un type comme Lagerfeld, je sais même pas comment il fait. À mon avis, ils sont trois sosies, quoi. Parce que c'est pas
possible. Il a le hologramme. Hein. Absolument. Alors, vous aviez tous les moyens à votre disposition pour réaliser ces clichés. Sauf que quand le sujet de la photographie est un grand couturier et qu'il a, j'imagine, une vision de son image et qu'il n'a pas forcément envie de la dénaturer, est-ce qu'ils vous ont laissé libre ?
Oui, ils m'ont laissé libre complètement pour plusieurs raisons. D'abord parce que le journal Elle, c'était quand même bon, c'est pas Closer. Donc si vous voulez, ils
avaient confiance.
On embrasse Closer. On embrasse Closer.
On les embrasse tendrement.
Pas trop non plus.
Oh Daniel.
Et puis le fait qu'au fond ils me connaissaient aussi, mais je leur rappelais leur jeunesse ou leur enfance, si vous voulez.
Vous les connaissiez, vous les avez croisés ou eux vous
oui,
connaissez
non, pas
en
tous,
tout cas.
Mais en tout cas je connaissais oui, Yves Saint Laurent, je le connaissais depuis très longtemps. Mais ce qui était merveilleux, c'est que, il y avait la confiance. Il y avait la confiance d'abord parce que dans les années 90, c'est quand même encore, c'est les derniers moments où il y a une liberté qui n'existe peut-être plus aujourd'hui parce que parce que c'est devenu trop gros, quoi.
On va se livrer un exercice un peu particulier pour la radio, mais c'est vous qui allez vous prêter à cet exercice, Jean-Marie Perrier. Pouvez-vous nous décrire l'une de ces photos qu'on peut voir dans cette galerie Photo 12 à Paris, pour donner cette image à nos auditeurs?
Il y en a deux que je peux vous décrire. Il y a une qui m'a beaucoup amusée, c'était Vivienne Westwood, qui est créatrice, bravo, bien joué.
Pourquoi on dira pas c'est un homme de lettres.
C'est marrant, on dit couturier, mais couturière, c'est une petite main.
C'est pas pareil.
Avec le visage.
On rencontre le problème de la féminisation.
Non, mais après, on peut aussi réhabiliter couturière.
Tout à fait.
Et considérer que les petites mains, de toute façon, ont fait le talent des grands.
Et faisaient le boulot.
Donc, Vivienne Westwood.
Vivienne Westwood, j'avais rendez-vous avec elle dans un musée à Londres. Et elle avait une espèce de robe, genre de Marie-Antoinette. Et elle arrive, alors je l'installe, on fait la lumière, elle se met en place. Elle me dit, ah, un détail, mon fiancé va venir, et il arrive, il rentre à poil.
Oui. Bonjour.
Alors, ce qui était extraordinaire, c'était la réaction du directeur du musée de Londres, qui n'a pas dit un mot. Il fait, oh, great. Bon, il n'a rien dit. Et l'autre s'est assis, à côté d'elle, à poil. Donc, si vous voulez, imaginez de faire ça au musée d'Orsay, je ne suis pas sûr que ça marcherait pareil.
Mais vous étiez d'accord pour cette photo?
Écoutez, je suis toujours d'accord pour tout, du moment qu'on rigole.
D'accord. Hein,
du moment que c'est pas sérieux. Et puis, il y a aussi, bien, alors celle-là est moins drée et moins gaie, c'est celle de d'Yves Saint-Laurent, parce que c'est la dernière séance que j'ai fait avec lui. Je crois d'ailleurs que c'est sa dernière séance. Et j'avais fait installer un très grand rideau, comme les rideaux de théâtre, vous savez, Bordeaux. Mmh. Et il apparaît derrière, et parce que c'est une photo que je voulais faire pour donner le sentiment qu'il nous dit adieu, parce qu'il était déjà très, très fatigué à l'époque. Oui. Voilà. Donc voilà, c'est deux photos.
C'est une photo très émouvante, celle-ci, avec ce rideau. Et Yves Saint-Laurent, vous racontez que vous aviez donc tous les moyens, par exemple, pour cette photo d'Yves Saint-Laurent, ou cette photo
de
Kenzo, par exemple,
juché sur un éléphant. Ah oui, non, mais c'est très marrant de faire entrer un éléphant dans un studio.
Enfin, il faut les moyens quand même.
Mais ça coûte combien, ça, par exemple?
Aucune idée.
Ah, donc vous commandiez, et puis derrière.
Ah, mais ça a toujours été comme ça, mais vous ne pouvez pas imaginer.
C'est les belles années, ça.
Mais ça a toujours été les belles années. D'ailleurs, je me fais des photos. Quand il y a les belles années.
Non, parce que c'est improbable aujourd'hui de se dire qu'il y aurait des séances.
C'est même plus envisageable. Ouais. Il y a peut-être 5 photographes dans le monde qui ont cette chance-là maintenant que j'avais. Mais d'abord, la photo a prodigieusement changé.
Ouais.
D'abord, les journaux n'ont plus un rond. Et puis l'avènement du numérique et des téléphones portables, tout a tout changé. Si vous voulez, il y a quand même des doubles pages de très grands journaux qui sont faites avec un iPhone aujourd'hui. Donc, ça veut dire que c'est très bien dans un certain sens, puisque finalement, tout le monde peut faire des photos et ça donnera forcément quelque chose d'autre. Mmh. Mais la photo telle que je l'ai connue, c'est fini.
Je vais vous présenter quelqu'un qui, justement, lui, prend des clichés au téléphone de temps en temps. Oui, c'est Frédéric. C'est Chris. Frédéric, est-ce que vous avez compris pourquoi Jean-Marie Perrier était venu nous voir ce matin?
Daniel, vous savez ce que je ferais si j'avais un petit peu d'estime pour ma petite personne?
Démissionner?
Non. Vous avez de la chance que mon loyer soit plus élevé que mon amour propre. Non, je me vexerais. Car chaque matin, par cette petite phrase lancée mécaniquement avec la paresse du chroniqueur en CDI, qui a survécu à tous les animateurs de cette tranche, vous témoignez tout le mépris que vous avez pour Albert Algout, Tom Villa ou moi-même. Oui. Un jour, Monsieur Morin, il faudra cesser de parler aux gens avec l'arrogance d'un macroniste devant un travailleur manuel.
Pourquoi ?
Regardez-les, là. Bien que dans les couloirs, elle ait autant de mépris pour nous qu'elle n'en a pour l'eau plate, à l'antenne, ça ne se voit pas. D'autant que votre orgueil n'a pas lieu d'être, car je vous rappelle qu'à cette heure-ci, les trois quarts de ce qu'on va dire va être couvert chez nos auditeurs par le bruit de l'essoreuse à salade ou par le vrombissement d'une voiture en déplacement. Donc vous me prenez pour qui ? Bien sûr que oui, que je sais pourquoi Jean-Marie Poiret est ici. J'ai bossé le dossier.
Jean-Marie Perrier.
C'est ce que j'ai dit. C'est l'essoreuse à salade, c'est pour ça. Bien sûr que je sais pourquoi Jean-Marie Perrier est ici, parce qu'il vient nous parler de son exposition de photos. La photographie, c'est art par lequel l'humanité essaie de capturer le temps qui passe. La photo, c'est le marque-page de l'existence. Oh. Et par photo, bien entendu, je ne parle pas de clichés horribles et mal cadrés que l'on trouve sur Instagram ou sur le compte Twitter de Nagui. Ces selfies qui sont à la photographie ce que l'onanisme est à la sexualité. La photographie, le photographe, lui, il se donne le luxe de prendre du recul pour avoir les sujets en entier, quand les amateurs de selfies, eux, sont condamnés à tenir leur objectif à bout de bras, prouvant par là qu'ils n'ont même pas d'amis pour tenir l'appareil. Et que dire de la perche selfie? Non seulement ils n'ont pas d'amis, mais en plus ils font même pas confiance au reste du monde pour tenir l'appareil. Moi devant le Colisée, moi devant la Joconde, moi devant la place Saint-Marc, moi au concert, moi au musée, moi. Le poids de l'ego, le choc des photos. Alors que le photographe manipule son objectif pour trouver la bonne profondeur de champ, l'époque se conjugue à l'imparfait du subjectif pour des clichés sans profondeur. Passer d'Instagram à l'exposition de Jean-Marie Perrier, c'est passer d'un album de Jules à celui de David Bowie. C'est pas le même métier. Alors vous allez dire que je suis négatif, que je vois tout en noir, mais je vous dirais simplement que c'est souvent dans une chambre noire qu'on trouve les plus beaux négatifs.
Magnifique, Frédéric Sigrist.
C'est vrai que c'est formidable de la part d'un type qui est en même temps capable de s'asseoir sur les genoux d'une dame à qui il a cédé sa place dans le RER. Ah, oui.
Nous avons discuté transport en commun tout à l'heure avant l'émission.
C'est ça, c'est toujours pas simple de venir à Paris pour Frédéric Sigrist.
Je te confirme.
Surtout un 26 avril.
C'est ça, c'est ça. Reste donc avec nous. Parmi ces clichés, Jean-Marie Perrier, il n'y a pas simplement des créateurs, il y a aussi des modèles. Et celle qui revient le plus fréquemment, c'est Carla Bruni. Oui. Pourquoi elle? Est-ce que vous avez développé un rapport avec elle dans le temps ou...
Ah non, je vous en prie.
Est-ce
que vous avez développé un rapport avec elle?
C'est une façon de
rapport. T'avais posé la même question à Nicolas Sarkozy.
Non, non, mais on développe bien des rapports ensemble. On développe bien des rapports ensemble depuis 4 ans. Et
ouais, justement, je fatigue, moi.
Enfin, bon, vous avez bien compris ce que je voulais dire.
Pourquoi elle?
Non, mais elle... Alors, je vais vous dire pourquoi. D'abord, travailler avec les grands mannequins, c'était vraiment formidable.
C'était la belle époque.
Oui, et puis, c'était l'époque des top modèles, mais surtout, c'est des filles qui, elles font tout. Je veux dire, vous arrivez, le photographe, vous faites la lumière et tout ça, mais elles arrivent, elles font tout. C'est de la danse. Non, c'est vraiment extraordinaire travailler avec un grand mannequin. C'est beaucoup plus facile que de travailler avec des gens qui n'ont pas l'habitude d'être devant un objectif.
Ça veut dire alors, quoi, elles font tout? Qu'est-ce que,
elles font
que pour,
tout, elles arrivent.
Pour nous qui ne connaissons pas.
Un grand mannequin, ça sent la robe, ça prend possession de l'objet et puis ça démarre. Hein. Et c'est vraiment magique à voir. Mmh. Bon, or, en plus, Carla, qui est quelqu'un quand même qui a eu une certaine éducation, elle est quand même en plus capable de rigoler. C'est quelqu'un qui a de l'humour et qui sait que tout ça n'est pas sérieux, quoi. Voilà. Donc, c'était très agréable de travailler avec elle, c'est vrai.
Monica vraiment. Bellucci figure également parmi
Très belle personne, ces clichés. Très belle personne. Et puis voilà, vous voyez, quelqu'un qui, en plus, pour cette espèce de statut d'actrice qu'elle a, qui pourrait être très impressionnant dans la vie, c'est un amour de personne, hein. On ne peut plus simple.
D'accord. Et Naomi Campbell aussi, parce qu'on a évoqué Carla Bruni. Naomi Campbell.
Ah, c'est différent, Naomi.
Ah, parce qu'elle était très liée avec Azdin Alaïa.
Oui, bien sûr. Oui. Mais alors, le problème avec elle, c'est qu'elle est souvent très en retard. Pas toujours de très bonne humeur, mais quand elle commençait à arriver devant l'objectif, c'était absolument génial. Là aussi, c'est pareil, il n'y a rien à faire.
Ça sent la professionnelle, mais insupportable.
Oui. Et justement, Carla Bruni, Naomi Campbell, pour le coup, elles avaient un droit de regard sur les photos.
Jamais.
Mais jamais, il n'y avait pas
d'intervention. Moi, ça ne m'est jamais arrivé de ma vie.
Ah, oui.
On ne m'a jamais demandé à voir une photo avant qu'elle ne paraisse. Moi, j'ai toujours été habitué à aller faire des photos tout seul avec les gens, hein, de les appeler, qu'est-ce que tu fous cet après-midi, boum. Tandis que là, maintenant, il y a du monde, hein, avec des grands écrans, avec tout le monde qui regarde ce que vous faites pendant que vous le faites, qui disent, ah non, faut refaire ça un peu, faut le retoucher là.
Mais tout juste, ils viennent pas avec leur avocat.
Mais j'imagine qu'à l'époque, pour faire venir un éléphant, il y avait du monde quand même pour organiser le...
Oui, mais là, il n'y a pas d'agent avec l'éléphant. Donc
l'attaché
c'est
de presse de l'éléphant.
Mais l'éléphant sans la robe.
Non, mais tandis que ce soit un éléphant, une locomotive ou n'importe quoi, en fait, il suffit de le louer.
Il faut un peu de logistique quand même pour organiser ça.
Ah, mais il y avait du monde. J'étais très, très entouré.
Et est-ce qu'il y avait des retouches sur les photos? Parce que c'est le grand sujet du moment. Ces photos dans les magazines féminins,
dans les années
elle...
60, pas du tout. Dans les années 90, oui, un peu, mais pas pour retoucher les visages. Mais je faisais souvent des montages. Parce que c'était le début de Photoshop. D'ailleurs, je dois dire que dans les premières photos, ça se voit un peu. Parce que vraiment, j'essayais n'importe quoi.
Le Tipex, hein,
ça veut dire. C'est vous qui le faisiez?
Oui.
C'est vous en personne?
Ah oui, à l'époque, oui. Maintenant, ça serait plus possible. Parce que maintenant, c'est des industries qui font ça. Tandis que moi, je faisais tout seul des choses, parfois un peu approximatives, mais ça fait rien.
Justement, ça donne de la valeur à la photo que vous avez prise, puisque c'est la retouche de Jean-Marie Perrier qui est approximative.
Ouais. Enfin, non, c'était pas si bien.
J'ai senti une belle tentative, Daniel.
J'ai essayé d'être agréable avec
Mais non, ça ne va pas.
Non, mais vous savez que dans les années 60, je faisais ça au ciseau.
Ah oui, d'accord.
C'est ça qui est bien, parce que si je mettais Mick Jagger assis sur une glace à la fraise, on le découpait au ciseau. Et on l'installait comme ça. Bon, là, grâce à cette magnifique machine qui s'appelle Photoshop, qui me prenait des 10 jours pour le faire, là, ça prend 1 heure et demie.
Mais c'est ça qu'il y avait une dimension dimension manuelle qu'il n'y a plus.
Je retirais, si par exemple, je veux une photo de... Je me souviens d'une photo de Jean-Paul Gaultier avec Sonia Riquel. Oui. Je la fais devant la tour Eiffel. Et il y avait des gens, j'ai retiré les gens derrière, parce qu'il y avait des gens qui pique-niquaient derrière, je n'allais pas les laisser.
Pourtant, le pique-nique, ça n'apporte pas une plus-value. Mais...
Et justement, quel regard vous portez sur les photos de mode, des photos qui paraissent dans les magazines féminins, même si, on l'a bien compris, ce n'est pas le même budget.
Non,
mais sur,
je ne regarde pas beaucoup tout ça.
Vous ne regardez pas?
Non.
Mais sur la retouche, vous, l'âme du photographe, celui qui veut capter aussi un moment de réalité, quelque chose d'un peu puissant, qu'est-ce que vous en dites de ça ?
Attendez, c'est vaste, parce que ça dépend. Il y a des moments où c'est sûrement très bien, d'autres où ça voudrait mieux l'éviter. Non, mais l'important...
Quand il s'agit de changer la silhouette d'une femme, c'est surtout ça la vraie problématique du moment, et qui pose problème sur la représentation qu'on envoie aux jeunes filles, mais pas que, aux jeunes femmes, aux femmes, qui vont passer toute leur vie à être tristes d'être dans le corps dans lequel elles sont.
Non, mais il faut le faire uniquement quand on l'a épousée pour lui faire plaisir, mais sans ça, je vois pas bien l'intérêt de changer quelqu'un, non. Ouais. Non, écoutez, un photographe, il est là pour mettre les gens en valeur, et il a qu'à se débrouiller pour le faire. Donc, c'est pas la peine d'essayer de prendre des machines pour essayer de changer le visage ou la ligne de quelqu'un. Mais de toute façon, moi, toutes mes photos, vous savez, elles étaient toujours, et elles le sont, jamais, ça n'est jamais la réalité. Hein, c'est toujours du spectacle. Moi, la réalité, la vérité, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des mises en scène et du spectacle. Voilà. Donc, pour faire du spectacle, comme chacun sait, pour dire la vérité, il faut savoir mentir.
Elle, je ne sais pas si elle sait mentir. Bon, j'ai eu quelques indices. C'est Leïla. Et Leïla, vos oreilles ont sifflé quand vous avez appris que Jean-Marie Perrier était notre invité aujourd'hui.
Mais oui, ça va rejoindre ce que vous venez de dire, Jean-Marie. Quand je pense à vous, je pense à vos clichés mythiques, aux stars que vous avez rencontrés, mais aussi à un autre métier pas si différent que vous avez exercé, notamment en faisant ça.
Ouais, 25 ans.
Oui.
Ça va pas, non?
Pourquoi?
Les marteaux, quoi. Mais à cet âge-là, elles s'accrochent. Faut les prendre mariées, mineures, comme eux. Comme ça, au moins après, hop, elles se tirent.
Ben, c'est ça.
Mais oui, dans 25 ans, c'est mauvais, enfin. Mauvais.
C'est un extrait d'Antoine et Sébastien avec Jacques Dutronc, un film que vous avez réalisé en 1974 et dans lequel joue François Perrier. Quel souvenir vous gardez de ça ? Je vous vois rire dès que vous avez entendu.
Bah oui, non, mais c'est merveilleux. Bah, si vous voulez, c'est parce que ma chance, c'est d'avoir pu changer de vie tous les 10 ans.
Oui.
Donc j'ai changé de vie, de métier, de pays, parfois de femme, enfin de tout, quoi. Mmh. Bon, donc ça, c'est une chance énorme. Et au fond, quand
la longévité s'explique comme ça, c'est ça. Tous les 10 ans,
vos ex-femmes seront très contentes.
Arrêtez de vous regarder en vieux. Vous n'avez jamais eu le courage de dire ça. Arrêtez vos pensées.
On a trop peur de toi.
Oui, vous avez raison.
Et en fait, ça m'a permis de vivre des choses complètement différentes. C'est-à-dire que je mesure avec le recul que c'était quand même un peu... c'était pas très sérieux, c'était un peu désinvolte. C'est vrai, parce que moi j'ai arrêté la photo, moi j'étais le roi du monde. Hein, boum, j'ai donné mes appareils à des gens qui démarraient et j'ai plus fait une photo pendant 20 ans parce que j'étais tombé fou de Dutronc.
C'est ça,
et
c'est
que je voulais lui faire faire du cinéma.
C'est ça, d'accord.
Voilà, mais tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est toujours pour quelqu'un, pour séduire quelqu'un ou par tendresse pour quelqu'un. Sans ça, je fais rien.
Votre premier téléfilm, c'était en 1966, Les Enfants du Palais.
Oui, c'était pour tourner avec mon père.
Et voilà.
C'était un film de télévision, et c'est extraordinaire d'avoir son père en face de soi. Et c'était en plus un film sur sur la journée d'un juge pour enfants délinquants pour la télévision. Et c'était merveilleux parce que là, j'ai pas. Comme tout ce que j'ai fait, je l'avoue, j'ai pas appris. J'ai pris une caméra, boum, et en avant.
Et on vous donnait la confiance à ce moment-là.
Mon père me faisait confiance.
C'est déjà pas mal.
Non, mais c'était pour Armand Jameau, comment ça s'appelait, les dossiers de l'écran.
Les dossiers de l'écran.
C'était formidable de pouvoir commencer
un indicatif.
Avec ça. Non, c'était merveilleux. Et puis, après, Dutronc, je le rencontre, Françoise me le présente, Françoise Hardy. Bon, je tombe absolument fou de lui autant que d'elle, et hop, ça y est, c'est parti. Donc je me dis, c'est fini la photo, maintenant je vais faire du cinéma pour lui. Et donc je fais Antoine et Sébastien, qui était le premier film de Jacques, avec mon père. Vous vous rendez compte ce que c'est de tourner avec son père et son meilleur ami? Bon, ça, rien que ça, ça vaut le coup d'être
vécu. Votre père, François Perrier.
Oui, absolument.
Et est-ce qu'il y a des métiers, là, dans les 10 prochaines années, vous allez faire quoi? Alors, si vous changez par...
Bah écoutez, vous savez,
on en est haut du cycle, là.
Oui. Alors, c'est la sixième vie.
Photographie, que, cinéma.
Photographie, cinéma. Ensuite, j'ai fait 10 ans de publicité. Je suis resté aux États-Unis. Ensuite, je suis rentré, j'ai refait de la photo. Ensuite, je suis maintenant parti dans l'Aveyron depuis 20 ans.
Fait du fromage.
Une espèce de paradis extraordinaire qui ressemble à la France telle que je la connaissais quand j'étais enfant. Je parle de la campagne, hein, je parle pas des gens. Et puis maintenant, j'ai changé complètement. Ça fait 20 ans que j'écris des livres. Je fais un spectacle sur scène. Mm-hmm. Je fais des expositions. Je vais même monter ma maison d'édition là-bas, dans mon village. Non, mais c'est formidable. C'est extraordinaire de pouvoir, à mon âge, avancer. Ne pas s'arrêter. Mais ça, ça vient de la désinvolture et du fait que je suis habitué à changer tout le temps. Voilà. Donc il me reste quoi, 15, 20 ans d'opérationnel. Je vais donc pas m'arrêter.
Ça fait envie, ça donne envie.
Peut-être du pole dance dans la prochaine carrière de Jean-Marie Perrier. Allez savoir l'humeur de Guillermo Guiz, ce sera juste après.
Ça vous tente,
après.
Jean-Marie?
Johnny Hallyday, l'idole des jeunes. Ah. Sur Inter jusqu'à midi et demi avec Jean-Marie Perrier.
Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envient. Mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Je cherche celle qui serait mienne. Mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne. Je ne fais que passer. Dans la nuit, je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. J'ai bien la fortune et plus, et mon nom partout dans les rues. Pourtant, je cherche tout simplement l'amour. Et une fille souvent me guette quand s'éteignent les projecteurs. Soudain sur moi, elle se jette, mais pas une dans mon cœur. Dans la nuit, je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. Il me faut rire et danser. Oui, le spectacle terminé. S'en aller ailleurs au lever du jour. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envie. Mais s'ils pouvaient savoir dans la vie combien tout seul je suis, combien tout seul je suis.
L'idole des jeunes, Daniel.
Qu'est-ce qu'il chantait, Leïla?
Johnny Hallyday.
Oh, ah, c'est une pointure en
authentique. Je peux remplacer Nagui bientôt dans Taratata.
Oh, tranquille.
Dites-moi, Jean-Marie Perrier, vous avez bien connu Johnny, vous êtes l'un de ses proches amis. Quelle réaction vous avez au vu des derniers événements, ces histoires déballées dans la presse?
Ces batailles.
Ouais.
Oui, je suis très très triste parce que c'est en train d'abîmer les souvenirs que les gens ont de Johnny. Alors ce type a passé sa vie à se donner un mal de chien, à faire ce qu'il savait faire, c'est-à-dire leur en donner pour leur pognon quand il était sur scène. Mmh. C'était ça son truc. Bon, on peut pas demander à quelqu'un de tout faire. Bon, ça d'accord, ok, sûrement. C'était certainement pas un père extraordinaire, ni un mari modèle. Un ami, disons, à l'éventail un peu trop large, je dirais, parce que finalement, quand on voit le nombre incalculable d'amis qu'il a eu dans sa vie, il y a quelques personnes bien et une grande quantité de connards quand même. Donc si vous voulez,
on va pas demander de nom, hein.
C'est un type qui ne pouvait pas être seul. Oui. Il n'existait que dans le regard des autres. Donc s'il était seul, il mourrait. D'ailleurs, je sais pas, mais une nuit tout seul, il pouvait en mourir. Donc alors, évidemment, ça fait qu'on se retrouve avec n'importe qui. Mais
donc faut distinguer l'artiste de l'individu. En tout cas, l'artiste, c'est celui qu'on aimait. C'est cette image-là qu'on...
Je crois qu'il n'était que ça. Le reste, il faisait ce qu'il pouvait. Écoutez, un type qui remplit un stade de 20 000 personnes et qui les rend fous de bonheur pendant 3 heures, quand il sort, on ne peut pas lui demander la note de gaz et puis d'aller chercher le gosse le lendemain à 5 heures. Ça ne marche pas comme ça. Peut-être pour certains, il y arrive. Pareil que Julien Clerc est un très bon père, c'est vrai. Mais Julien, c'est pas Johnny. Johnny, il n'y en a qu'un.
Puis il chante moins fort.
Non, non, mais c'est vrai, c'est pas
merci
pareil.
Merci Daniel, c'est...
La pas constructive, Daniel. On se retrouve.
Merci.
Non, mais voilà.
Et puis,
j'essaye d'être précis.
Le service de France Inter. Pardon, Jean-Marie.
Non, non, mais contrairement à certains, je n'ai pas la prétention de dire que j'étais son ami. J'avais pour lui de l'estime et de la tendresse. Et je sais qu'il me la rendait bien, cette estime et cette tendresse. Voilà, ça suffit largement, parce que vous savez, dans ce métier-là, le mot ami est un peu galvaudé, je dirais.
Hein non, mais vous avez passé un coup de gueule, Jean-Marie Perrier, disant, voilà, moi j'en
faut
ai...
Il faut lui foutre la paix.
Il faut lui foutre la paix, déjà, on l'a maltraité. On l'a traité comme un idiot pendant...
40 ans.
Plus de 40 ans, donc ça, c'est quelque chose qui vous a vraiment vexé et blessé. Est-ce qu'il le blessait lui aussi?
Oui, parce que c'est toujours très... C'est, au fond, en 62, quand il arrive, enfin, quand moi j'arrive, parce que je les connais, il avait démarré avant, mais... Qu'est-ce que c'est que tous ces mômes-là, et particulièrement lui, puisqu'à lui tout seul, avec Sylvie, représentait pratiquement toute la jeunesse française, deux émigrés d'ailleurs en passant, et ce môme-là, il fait quoi? Il chante et il danse. Pendant 40 ans, les adultes, les journalistes, les médias, tout le monde lui est tombé dessus en le traitant d'imbécile, alors que c'était vraiment pas un con. C'était un type qui avait beaucoup d'humour. Et il m'a toujours dit cette phrase que je trouve formidable pour un môme de 20 ans à l'époque. Il m'a dit, je préfère qu'il me prenne pour un con, comme ça je les vois venir.
Jean-Marie Perrier est notre invité dans la bande originale jusqu'à 12h30. Il expose à Photo 12 Galerie, c'est jusqu'au 12 mai. Lui, un jour, il exposera, je ne sais pas, l'éventail de ses maladies. C'est Guillaume Auguis pour l'humeur de Monsieur Guillaume Auguis.
Bon, bonjour les amis.
Non.
Ah, vous me connaissez?
Non, t'inquiète pas, vas-y.
Cette haine diffuse dans ce studio, un jour vous serez là. Vous me connaissez, moi je suis sensible à la cause écologique. Pour vous dire, j'ai appelé ma fille Dominique Voynet. J'ai appelé ma housse de couette, s'appelle Yannick Jadot. Et j'ai deux blousons en bois. Alors, je peux pas faire plus. Moi je suis comme Leïla, vous savez, je tire jamais la chasse. Ou alors uniquement dans les toilettes qui sont munies d'une chaîne à poignée. Sinon, je laisse en l'état. Hein. Je dis, tu sais quoi, que la nature se débrouille. Appelez seulement les gendarmes, ils seront bien reçus dans la ZAD.
Non.
Il paraît que c'est vrai.
C'est une légende à France Inter. Mais je crois que pour le coup, j'ai fait un vrai geste pour la planète. Quoi, tu as lavé Daniel Morin? Mais tu es inconscient, Ernesto. Ne jamais appliquer d'eau sur Daniel Morin, tout le monde sait ça. Daniel a une hygiène de félidée, il se lave à la langue. C'est sa façon à lui d'avoir la main verte. Non, pas du tout. Je me suis enfin débarrassé de ma voiture.
C'est ce qu'on dit.
C'est vrai, je vous avais dit. Je me suis enfin débarrassé de ma voiture. Je vous avais dit, tout pour l'écologie. Je prends plus que des taxis et des Uber. De moi, les générations futures diront, Guillaume Auguis, il n'aura pas marqué l'histoire de l'addiction humaine. Oh que non. Il y a des pommes de pin qui s'exprimaient mieux que lui. Mais sur le plan strict de l'empreinte carbone, qu'est-ce qui nous aura étonné jusqu'au bout avec son volontarisme? Mais pour être tout à fait honnête, ça va me manquer, la voiture, c'est vraiment la liberté d'expression. Va te faire tatouer l'anus, sale cycliste. En voiture, je suis complètement Charlie. Mais là, c'est vrai, l'insulte de voiture, c'est pas transposable au transport en commun. Dans le métro, j'ai tenté un petit, mais avance, putain, qu'est-ce que t'attends là? Démarre avec ton Audi de merde. Et moi, j'ai trouvé que dans le métro, les gens étaient hyper fermés. Très dans le on le prend mal et tout, dans le on réagit en pratiquant la violence et on tasse un low kick dans les zones spongieuses. En voiture, t'as pas ce problème, t'es protégé. En voiture, moi, je faisais des sourires à la police. Je faisais des sourires à la police, c'est un truc que je ferais jamais devant témoins. Je leur disais, regardez, je roule à 50, promis, je dépasse pas votre QI. Par principe, en bagnole, je pouvais être moi-même. Un mec tellement généreux, moi, combien de priorités de droite j'ai pas laissé? Je disais, regardez les gens l'air de dire, tu vois, cette priorité, c'était ma priorité. Eh ben, je te la laisse. Tu sais pourquoi? Parce que je suis sur France Inter. Eh oui, et que j'ai une conduite de gauche, comme Augustin Trappenard. Voilà, mais ça va vraiment manquer mon habitat. Il y a encore toutes mes crottes de nez dedans, j'ai pas eu le temps de les récupérer. J'ai laissé entre 11 et 16 kilos de substances organiques dans cette voiture. C'était devenu un être quasi vivant finalement. Je l'ai vendu à un zoo, je sais pas ce qu'ils vont en faire. La pollution aussi, ça va me manquer la pollution. C'est une pollution concrète la voiture. J'étais addict à la fin, je léchais les particules fines, ah, même les ventilateurs. À la fin, j'ai cuit des gnocchis dans mon radiateur. Enfin, j'ai mis du Grégoire à fond. J'étais à fond dans la pollution. Et dans le métro, c'est pas pareil la pollution. C'est vrai, dans le métro, c'est différent. Parfois, tu te retrouves coincé 6 stations dans les selles d'un mec où tu dis, bon, là, biologiquement, il y a un truc fort qui est en train de se passer. Alors que sais-je, une permaculture de sida, le tournage d'un film catastrophe, je sais pas, cette personne va clairement dégrader ma santé, mais c'est pas la même saveur que l'air conditionné à fond en plein embouteillage. Mais c'est pas mon truc, les transports en commun. Enfin, j'aime bien l'idée de transport, je crois moins en l'idée de en commun. Ce que je veux dire, c'est que si j'étais immensément riche comme Fred Sigrist, par exemple, je m'achèterais pas une Tesla comme lui avec intérieur cuir de panda. Et je critique pas vos goûts, Fred, ça vous permet de ken sans payer, je comprends la démarche. Non, mais moi, si j'étais riche, j'achèterais direct une rame de métro avec un conducteur RATP privé. Je lui ferais Denis, mon petit aiglon. Vous me déposerez à la station Concorde, mais avant de passer par chez Albert Algou, je dois récupérer ma kétamine. C'est vrai, je regarderai les gens sur lesquels je leur ferai allez vous faire tatouer l'anus, salut, utilisateur RATP. C'est vrai, ça va me manquer. Vendre ma bagnole, c'est le symbole d'une nouvelle vie, repartir de l'individuel vers le collectif, quoi. Me reconnecter aux autres, reparler aux gens, parce que dans le métro, je vois des gens avoir des débats incroyables. Parfois, ça manque juste d'un interlocuteur véritable, quoi. C'est vrai, pour qu'on puisse appeler ça une vraie conversation et pas une très très belle vie intérieure. Et en parlant de vie intérieure, moi je retourne à la mienne. Allez, bonne émission, les amis.
Bravo, bravo.
La bande originale. Guillermo qu'on retrouve sur scène, n'est-ce pas Guillermo Guise ? On te retrouve sur scène très régulièrement.
Guillermo le tatoueur.
Oui, jusqu'à ce que mort s'en suive au point virgule. Hein, comme ça.
Avec deux blousons en bois.
Au point virgule, c'est ça. Et avec une voiture zoo, en gros. C'est ça l'histoire, quoi.
Oh là 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 là. Est-ce qu'il est aussi bon sur scène qu'il est derrière
l'écran ? Mais vous parlez moins vite sur scène.
Mais écoutez, j'ai fait un effort, et bien ça marche pas. Il n'y a rien à faire, je ne peux rien y faire.
Oui, il a un débit, c'est vrai, mais ça participe au charme des garçons.
Oui, c'est vrai, on ne comprend pas toujours. Mais...
On ne comprend pas, mais c'est peut-être ça qui te sauve.
C'est ça qui te sauve.
On va revenir en musique sur votre parcours, une partie de votre parcours. Jean-Marie Perrier, on commence en 1956 où vous écoutiez ça.
The summer wind came blowing in from across the sea.
Frank Sinatra, Summer Wind.
Vous voyez où avec cette musique là, tout d'un coup Jean-Marie Perrier? Dès que les premières notes ont commencé, hop, vous avez levé les bras, comme si vous étiez en train de danser. Non,
voilà, oui. Mais vous savez, moi j'étais passionné de musique, je jouais du piano, je faisais du jazz, du classique, et je me souviens très bien de cette chanson et de Sinatra qui m'a tellement fait rêver, parce que c'est lui le responsable, c'est lui qui m'a fait rêver de l'Amérique, bah, évidemment.
Il y a toujours un bouc émissaire.
Bah, écoutez, vous êtes drôle, moi j'imaginais comme dans les films, je m'imaginais arriver là-bas, alors avec le balcon, avec la ville au fond, et le mec qui rentre, et puis il y a une femme magnifique qui est en train de nous préparer
un
scotch.
À la descente de l'avion.
Résultat, j'arrivais, quand je suis arrivé à New York, j'étais en face, de l'autre côté il y avait un mur, c'était épouvantable. Moi ça me rappelle Sinatra quand j'entends ça, ça me rappelle quand j'ai rencontré Daniel Filipacchi, voilà.
Oui,
qui a 16 ans, j'avais 16 ans, j'en avais paraissé 11, et il m'a engagé en 3 minutes et puis il m'a emmené, voilà, il m'a changé ma vie complètement. On faisait du jazz, on faisait des photos, c'était un type extraordinaire.
C'est
enfin,
ça,
c'était, il l'est toujours d'ailleurs, mais moi je le vois plus beaucoup.
Vous devenez son assistant et puis tout d'un coup commence, voilà, les premiers pas dans la photographie. Et c'est aussi en 56, Jean-Marie, que vous apprenez l'identité de votre père biologique.
Mon géniteur, oui, c'est oui, ça. Bah oui. Non, mais ça, je le souhaite à personne, parce que, au fond, ce genre de choses, faut le dire ou beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard. 16 ans, c'est un peu rude quand même.
Bon. Parce que c'est un âge où tout se transforme, tout se met en place.
Oui, oui, oui. Et puis bon, je ne comprenais pas pourquoi aussi depuis que j'ai.
Très bien, docteur, Léla.
Non, mais j'imagine 16 ans, parce que, en même temps, l'apprendre à 25 ans ou à 30 ans, c'est aussi perturbant.
Oui, non, mais surtout quand. Bon, j'avais mon père s'appelle François Perrier, c'est lui la passion de ma vie, c'est lui à qui je dois tout. Et en même temps, bon, je jouais du piano, je faisais de la musique. Alors lui, il ne connaissait pas du tout la musique. Et puis bon, je voyais bien, en vacances, je bronzais en 3 jours, alors que mon frère et ma sœur mettaient 3 semaines. Donc je me disais, il y avait un truc différent.
Comment vous avez su que Henri Salvador était votre géniteur ?
Par un ami de ma mère, voilà. Bon, un type qui est très gentil, mais qui m'est... un peu léger, bon, qui m'a dit ça comme ça, mais...
Oui, entre la poire et le...
Oui, c'est compliqué pour un moutard, parce que c'était interdit, on n'en parlait pas, c'était caché. Voilà, mon père, j'étais son préféré, il avait décidé que c'était comme ça et tout. Bon. Mais cette histoire me laisse un goût amer, parce qu'au bout du compte, voilà, mon géniteur ne s'est pas bien conduit avec mes enfants, c'est-à-dire avec ses petits-enfants, donc je ne veux plus jamais parler de lui, je ne prononce même plus son nom. Voilà. Mon père s'appelait François Perrier Et je remercie le ciel que ça soit passé dans ce sens-là. Parce que si j'avais été le fils de François élevé par l'autre, ça n'aurait pas été la même vie.
Donc 1956 restera l'année. Philippe Aki pour garder un bon souvenir. On passe à 1962.
Ah, j'aime bien comme
voilà.
Allez, ah, clic, clac.
La transition, ouais, c'est tout. Daniel,
hein. Il a raison, 1962.
Il a raison. Regarde un peu, c'est elle qui vient. C'est la plus belle de tout le quartier. Et mon plus grand désir, c'est de lui parler. Elle la guiche mes amis, même les plus petits. Pourtant, pour elle, je n'ai pas l'impression d'exister. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible.
Aussi bien pour vous que pour Leïla, encore Johnny avec Elle est terrible.
Elle est terrible, on est en 62 et là vous amorcez la période. Salut les copains, vous devenez le photographe, the photographe pour ce magazine. Comment vous débarquez dans cette aventure Salut les copains?
C'est-à-dire après avoir été l'assistant de Philippe Aki pendant 4 ans, je faisais Jazz Magazine avec lui, mm-hmm. Puis j'ai fait un peu quelques photos pour Paris Match et Télé 7 jours. Et puis, il y a eu 28 mois d'armée, parce que vous parlez à un ancien combattant, là, quand même. Donc,
ah, bah, l'époque.
Donc, vous étiez où, vous étiez où?
Ben, j'ai fait un an en France et un an en Algérie, à Oran. Donc, quand je reviens, je rencontre Daniel par hasard, qui me dit « Ah tiens, qu'est-ce que tu fais ?» Ben, je dis « Ben voilà, je fais des photos pour Télé 7 jours. » Ah, je vais faire un petit journal de musique. Est-ce que tu veux le faire avec nous? Putain, moi, j'étais très content de faire des photos, d'avoir un boulot. Mais enfin, bon, Catherine Langeais sur fond de velours Bordeaux, j'en avais un peu marre. Hein, donc je saute sur l'occasion et je me retrouve avec ce mec extraordinaire une fois de plus. Et tout à coup, ce journal qui tire à 100 000 exemplaires, 6 mois plus tard, on est à 1 million d'exemplaires. Et on se retrouve dans une situation extraordinaire, avec tous ces mômes qui démarrent, qui partent de rien, que moi j'ai connu dès le début. C'est ça ma chance, si vous voulez, quand je connais ou Johnny, ou Sylvie, ou Françoise, ou les Beatles et les Rolling Stones, c'est des mecs, ils débutent. Donc, au fond, on a des rapports de gamins, les choses sont simples, c'est pas grave. Ouais. Donc, finalement, eux, ils deviennent des stars mondiales, et moi je suis, voilà, je les connais. On vit un peu la même chose, le même mouvement. Donc c'est ça, bien sûr, dont j'ai la nostalgie, parce que je l'ai, la nostalgie. Hein. Faut pas faire comme tous les mecs de mon âge, je suis dire « Ah non, non, moi, c'était je regarde que maintenant. Devant et tout. » Bah, moi, devant, je trouve ça un peu court. Quant à aujourd'hui, franchement... Bah oui, et franchement, aujourd'hui, je me marrais plus à 25 ans qu'à 78, les mecs. Hein, je vous le dis franchement. Donc, j'ai la nostalgie de cette époque, même si, il ne faut pas dire « Ah, c'était mieux avant. » Non, c'était mieux avant pour moi, pas pour tout le monde.
Ouais, on a la sensation qu'il n'y avait pas de plan de carrière à l'époque.
J'en ai jamais eu, je ne sais même pas ce que c'est qu'une carrière. Non.
Il serait temps de vous intéresser au dossier.
Non.
En plus, c'était génial à l'époque, vous disiez qu'une fois que les photos avaient été prises avec les stars dans le studio ou chez eux, il fallait changer de décor. Et là, c'était le tour du monde avec quasiment tout le monde.
Bah oui, parce que j'avais aucune limite. Daniel Philippe Aki ne m'a rien dit pendant 12 ans. À part au début, ça je l'ai souvent dit.
De faire des photos qui déplaisaient aux parents.
Voilà, c'était ça. La seule chose qu'il m'a dit, débrouille-toi pour que tes photos déplaisent aux parents. Voilà.
Mais c'est quoi c'est
ce qui était génial, puisque c'était un journal d'adolescence, il avait tout compris, le mec.
Bon, donc... À l'époque, c'était quoi pour déplaire aux parents?
Par exemple, quand je mets Johnny en couverture de Salut les copains, pendant qu'il fait son service militaire, je mets un drapeau bleu, blanc, rouge derrière et qu'il est en militaire, on est sous De Gaulle. Hein. Ça, il n'aime pas beaucoup quand même, je vous dire, les adultes, ils faisaient un peu la tronche. Mais à partir de là, il n'y avait aucune limite, donc je les ai... emmenés partout, je les emmenais pour faire des photos. Alors, on visitait des pays, je sais pas combien j'en ai emmené en Amérique, par exemple. Bon, que ce soit Paul Naref, même Eddie Mitchell, putain, le spécialiste de l'Amérique. La première fois qu'on est allé en Amérique, c'est ensemble. C'était formidable. Voilà, donc, ça n'existe plus. Si vous voulez, ça n'existera plus. Bon, ça va, c'est vécu, merci beaucoup. Le coup de bol, c'est moi qui l'ai vécu. Et je remercie le ciel auquel je ne crois pas.
Mais oui, vous avez les Stones en fait sont venus vous voir pour être dans Salut les copains.
Non, c'est les Beatles.
Ah,
en fait, ils sont pas venus me voir, mais je veux dire la première fois que je photographie les Beatles, leur manager et eux veulent être dans ce journal parce que c'est le seul en Europe qui est comme ça. Vous comprenez?
Ça se vendait à combien d'exemplaires, vous vous souvenez?
1 million. Mmh. On est monté jusqu'à 1,5 million.
C'était qui?
Pour le mariage de Johnny et Sylvie. Mmh. Et à ce sujet, il y a une chose très drôle que j'ai découverte récemment. J'avais complètement oublié, c'est une photo qui est parue dans Le Point là, sur Johnny et Sylvie. Et c'est une photo où on est tous les trois Johnny, Sylvie, moi sur une plage aux Canaries. Or, il se trouve qu'ils avaient eu la gentillesse de me prendre pour témoin de leur mariage, qui était déjà beaucoup. Mmh. En plus de ça, ils m'emmènent en voyage de noces. On est tous les trois en voyage de noces.
Alors, c'est c'était bien.
C'est un message.
Ah, c'était très très bien. J'étais un peu seul dans ma chambrette, mais c'était très très bien.
On passe en 2010 à un grand saut dans le temps et vous écoutiez. It's 3 months to the river. That would carry me away. And 2 miles to the dusty street that I saw you on today. River of Tears.
Ça, bon. Alors, Eric Clapton est le musicien que j'aurais écouté le plus dans ma vie. Il n'y a pas une journée où je ne l'écoute pas depuis 1964.
C'est votre routine, c'est quoi votre rituel ? Qu'est-ce qui vous fait pour être présent tous les jours de votre vie ?
D'abord, c'est un guitariste absolument incroyable. Et puis, ce qui me touche chez lui, comme chez les Beatles ou les Rolling Stones, c'est tous ces petits groupes anglais, là, au début, qui sont des petits jeunes gens qui vivent dans une Angleterre fermée, rigide. Vous vous rendez compte l'imagination qu'il faut, comme pour eux, comme pour Johnny Hallyday d'ailleurs, pour rêver d'être noir américain. Je trouve ça extraordinaire. C'est fantastique d'avoir cette imagination-là. Or, lui, en plus de ça, est quand même le seul guitariste au monde blanc anglais que les noirs américains de la musique appellent God. Hein faut y arriver quand même à ça. Moi, tous les jours, ce type-là m'enchante.
Et on a choisi 2010 parce que c'est l'année de publication d'un ouvrage de témoignage d'ado qui s'appelle « Casse-toi, crève mon fils, je ne veux pas de pédé dans ma vie ». C'est un moment aussi important dans votre vie. C'est votre engagement, quasiment un de vos premiers engagements en faveur du refuge.
Ah non, les premiers engagements, c'était la drogue pendant les années 80, où je faisais des clips anti-drogue.
Mais là, publier, écrire, aller à la rencontre, recueillir des témoignages, c'est quand même une démarche très très forte.
Bah oui, parce que si vous voulez, je trouve ça tellement insensé de mettre un enfant au monde, ce qui est déjà une honte quand on y réfléchit, parce que finalement, c'est très égoïste. On le fait pour soi, pas pour lui. Après, on le met dans le merdier, débrouille-toi. Bon.
Donc, oui, c'est une vision des
la moindre des choses,
tort, hein, sans le prévenir.
Mais non, mais attendez, la moindre des choses, c'est de donner à cet enfant la possibilité de vivre la vie qu'il veut. Mm-hmm. C'est pas de l'obliger à vivre comme on veut. Qu'est-ce que c'est que connerie? Bon, moi, si ma fille ou un de mes fils me venait en me disant à 16 ans, voilà, papa, j'aime un garçon, l'important c'est de savoir qu'il est amoureux. Alors ça me hérisse, ces espèces de règles imbéciles. C'est comme, je ne supporte pas, je vous le cache pas, ni les religions, ni les partis politiques. Parce que c'est ces gens qui vous expliquent comment il faut penser, ce qu'il faut dire. J'ai horreur de ça, les partis politiques, c'est vrai quoi. C'est comme les vieux cons, ils pensent qu'ils ont toujours raison en plus. Hein. Les choses, elles sont comme ça, elles sont pas autrement. Je comprends pas comment on peut réfléchir comme ça. Moi, plus j'avance en âge, plus la seule chose dont je suis sûr, c'est que je ne suis sûr de rien. Donc, laissez les gosses vivre leur vie.
Pourquoi mais Jean-Marie, est-ce que c'est une raison pour nous engueuler, nous?
Oui,
je voulais juste que ce soit clair.
Non, parce que vous pensez, en publiant ce recueil de témoignages, c'est une façon aussi de vous adresser aux gens de votre génération, parce que finalement, autour de cette table, nous, la plus jeune génération, j'ai pas la sensation qu'on soit.
Tu parles
aussi
pour toi.
Voilà, ok.
Non, mais c'est les parents qu'il faut éduquer là-dessus. Ouais. C'est les parents qu'il faut éduquer. Et je l'ai fait parce que je voulais aider cette association qui s'appelle Le Refuge, qui à l'époque, quand j'ai fait ce livre, quand j'ai publié ce livre, ils avaient 40 mètres carrés à Montpellier, c'est tout. Ouais. Et ils recevaient des coups de téléphone de la France entière, d'appels au secours, de mômes de 14 ans qu'on foutait dehors dans la rue avec le sac poubelle et les affaires en hiver. Bon, alors écoutez, c'est pas la peine de faire des gosses. Hein. De toute façon, je suis convaincu que 50% des hétérosexuels dans le monde qui font des gosses, ils savent pas pourquoi. Ils le font parce que voilà, on se mélange, hop, hein, on gesticule
pourquoi
un peu.
Pourquoi vous avez fait vos enfants,
plus tard, boum, bonjour, le paquet cadeau.
Non, mais pourquoi vous avez fait vos enfants, Jean-Marie?
Mais jamais j'ai dit à une femme, fais-moi un enfant. Je me suis toujours retrouvé avec une femme que j'aime et qui a le G-test positif dans les mains et elle fait la lévitation, t'en prends pour 50 ans. Mais ça, je peux pas faire autrement.
On va rappeler quand même, Jean-Marie. On va rappeler les prénoms de vos enfants. Beaujolais et Tequila. on comprendra mieux.
Je l'aime. Quand on aime une femme, on dit pas non, je veux pas de ton gosse.
Non, mais je dis pas le contraire, mais 50% des hétéros qui font des enfants, peut-être par amour aussi.
Non, il y en a 50% par amour, mais il y en a 50%, ils ne savent pas pourquoi. Ça, je peux vous dire, ça, c'est absolument certain. Alors que quand des homosexuels veulent adopter un gosse, c'est exactement comme les hétéros infertiles. Ils n'ont pas le choix. Donc, s'ils le veulent, ils le veulent vraiment. Mm-hmm. Ils y ont réfléchi beaucoup. Alors que les hétéros, hop, allez hop, on se mélange un coup et en avant.
Compris, Léla ?
Eh bien, on se mélange un coup. Et,
attends, la fin de l'émission.
Et avant ça, on va faire un tour à la galerie Photo 12. J'ai pas donné l'adresse. C'est à
alors,
Paris, c'est 14 rue des Jardins Saint-Paul.
C'est dans le 4e, voilà, c'est dans le Marais.
Voilà, c'est dans le Marais, pour découvrir des clichés souvent inédits, ces photographies présentées par Jean-Marie Perrier, qui regroupent des grands noms de la mode, Asdine Alaïa, Carla Bruni, Christian Lacroix, je vais en citer quelques-uns, Issey Miyake, John Galliano, Sonia Riquel, Karl Lagerfeld, Kenzo, Thierry Mugler. En tout cas, c'est une façon de revisiter un peu l'histoire des grands couturiers français et un peu étrangers. Et justement, pour aller un peu plus loin sur la mode, on accueille autour de cette table Loïc Prigent. Oh, bonjour Loïc.
Bonjour.
Vous êtes, bonjour. Bonjour. On vous connaît bien ici. Ah, on vous applaudit. Spécialisé, journaliste spécialisé dans la mode, réalisateur de documentaires et producteur aussi de documentaires qu'on adore.
Non, pardon, mais excusez-moi. Enfin, je sais qui c'est, parce que je me dis, est-ce que c'est un sportif? Est-ce que c'est un directeur de journal? Est-ce que je ne savais pas? Je connais le nom, mais je connaissais pas le mec.
Vous allez le reconnaître aussi à l'intonation de sa voix. Il a une patte, Loïc Prigent. Bonjour Loïc. Alors comment, on voulait élargir un petit peu cette émission à la mode plus globalement. Comment, vous qui connaissez bien cet univers, les grands créateurs dont on a parlé tout à l'heure, est-ce qu'ils sont aussi emblématiques aujourd'hui que cette génération qu'on a citée?
Je me disais ça, ouais, peut-être moins. Ouais. Ouais. Enfin, c'est rare le talent de savoir raconter sa mode, il est devenu assez rare en fait. Et les jeunes créateurs français sont souvent belges, les jeunes créateurs français sont souvent autistes. Enfin, c'est
lié. Est-ce qu'ils sont souvent belges ou
autistes? Ben les deux
les autistes, que... on les envoie en Belgique, en France, pour s'en débarrasser.
Non, mais c'est-à-dire qu'ils ont peut-être une difficulté à s'exprimer, ou en tout cas des snobismes mal placés, en tout cas pour s'exprimer face au grand public et tout ça, et se laisser placer derrière un rideau, par exemple. C'est, ah non, il y a 12 assistants qui vous disent, ah non, j'espère que vous ne manquez pas de lui.
Gestion de l'image, hyper poussée. Ouais. Voilà.
Il y a quelques-uns qui en ressortent. Il y a un jeune gars qui s'appelle Simon Porte-Jacquemus, qui est une marque qui s'appelle Jacquemus, qui a 28 ans et qui, je pense, ferait des belles photos avec vous, ouais, si vous faisiez encore des photos là le mois prochain pour elle, par exemple. Vous ferez une belle photo avec lui, je pense.
Qui fait de belles vidéos, qui semble avoir une sorte d'esprit un peu plus frais que les autres,
qui vient du sud,
les autres créateurs,
solaire,
ouais, marseillais. Fait. Donc il y a quelque chose, c'est vrai, d'assez troublant chez lui. Pourquoi est-ce qu'ils sont un peu moins emblématiques, ces créateurs, parce que aussi ils sont peut-être plus nombreux, ou que on a assisté à une période à l'âge d'or de la création de mode?
Non, je crois qu'il y a quand même, il se passe, enfin là, par exemple, en ce moment, ils disent tous, enfin tous les journaux américains disent, ah, c'est à Paris qu'il faut être, il y a un effet Macron. Qui est positif pour les étrangers, enfin surtout les Américains. Je pense que quand ils sortent de Trump, ils voient Macron, c'est un peu plus la lumière quand même, a priori. Donc les Ricains viennent vraiment chez nous comme une espèce de ils voient un âge d'or à Paris en ce moment, en tout cas.
Donc la mode en France se porte bien,
très très bien,
financièrement aussi.
Ouais.
Oui,
les chiffres sont fous. Ouais. Les chiffres sont délirants. Il y a plus de 78% de bénéfices dans certaines marques en ce moment.
Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, aussi, je crois que la différence, c'est que avant, les couturiers faisaient des robes pour 1000 femmes dans le monde. Ensuite, il y a eu le prêt-à-porter. Mm-hmm. Et maintenant, ils font du parfum. Donc, si vous voulez, c'est compliqué d'être aussi libre qu'avant, parce que c'est devenu un tel business, tellement énorme, que c'est faut faire attention à ce qu'on dit.
Puis les grands créateurs sont des employés en général de grands patrons et d'énormes multinationales.
Ça va le dingue pas mal, hein.
Mm-hmm. Ouais.
Ouais, ça va le dingue.
Vous êtes
là, on est arrivé à un an et demi de contrat.
D'accord.
Les mecs, ils vous mettent en haut d'une maison, vous faites plein de presse pour annoncer que vous êtes arrivé à la maison, et au bout d'un an et demi, ils annoncent qu'il y a un nouveau mec qui arrive.
Parce qu'on est vraiment dans cette dimension business et plus du tout dans l'art.
C'est pire que vendre des parfums, c'est que maintenant ils vendent aussi des sacs et des accessoires et ils vendent vraiment les fringues aussi. Donc si vous les vendez pas tout de suite, au revoir. Et les chiffres sont vraiment vraiment délirants. Je pense qu'au moment où vous avez photographié ces gens pour le L, c'était quoi? C'était en
90.
90.
10 ans pour les années 90.
Je pense que ces gens faisaient 50 millions d'euros et maintenant ils font 5 milliards. les mêmes noms, quoi.
Et qu'est-ce qu'on y perd, vous, en tant que spécialiste de la mode, dans la créativité, dans...
Ah non, on y gagne en grand spectacle. C'est-à-dire qu'ils ont, embauché un nombre de gens pas possible dans les studios, oui. Un nombre pas possible de gens dans la façon de faire et tout ça. Et ce qui fait que le spectacle est devenu vraiment, vraiment fou.
Le spectacle des défilés, pour les Fashion Week.
Les campagnes de pub, tout.
Et le travail sur la forme du corps, sur la création du vêtement, là encore, on peut encore inventer. Continuer à inventer, c'est infini.
Là, ça leur arrangerait qu'on invente un troisième bras, c'est sûr. Mais plein d'autres choses. Mais non, ils arrivent encore, je crois, à faire des collections assez excitantes, hein, si.
Et est-ce que la différence aujourd'hui, c'est pas que la mode se fait non plus sur les podiums, mais un peu plus dans la rue, sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas une. J'ai la sensation que ça se diffuse davantage, que pour faire son trou, on n'est pas forcément obligé d'être à la tête d'une grande maison. Vous avez parlé de Jacquemus, qui a commencé tout petit.
Oui, il a commencé tout petit. Il est toujours, il fait un bon chiffre d'affaires, je crois, en restant indépendant. Donc, on peut arriver à faire en dépensant le prix d'une mobylette pour son premier défilé, comme il l'a fait. On peut réussir.
C'était le prix de sa mobylette, ça.
Oui, voilà. Le premier défilé qu'il a fait, ça coûtait vraiment rien. Alors que là, je pense qu'il a dépensé pas mal pour ses défilés. ce qui est très bien. On peut quand même bien s'amuser dans la mode et ça. Les portes sont pas complètement fermées. Vous êtes pas obligé d'être dans un grand groupe de luxe pour.
Mais la mode de la rue, elle était fantastique au Japon dans les années 90.
Je crois qu'il y est encore assez.
C'est vrai, c'est ça, je voulais savoir, parce que c'était extraordinaire. C'était des mômes, ils mélangeaient absolument toutes les modes et ils refaisaient quelque chose qui leur appartenait qu'à eux. Formidable.
Quel est votre rapport à la mode, vous, Jean-Marie Perrier, quotidien?
Alors écoutez, moi, le rapport à la mode est très simple. Il ne faut jamais suivre la mode. Il faut être la mode ou rien. Et j'ai horreur des gens qui changent. Donc si vous voulez, je ne suis pas vraiment...
Vous êtes amoureux de Daniel Morin?
Non, mais j'ai toujours été habillé pareil. Et tout, je ne suis pas la mode.
Et si on parle des photographes, des grands photographes du moment, forcément Jean-Marie Perrier a incarné cette grande page de l'histoire aujourd'hui, selon vous.
Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un resserrement du marché sur 5 à 10 personnes qui ont chopé toutes les campagnes et qui ont fait un fric complètement fou et qui ont accumulé un pouvoir complètement dingue. Et là, il y a eu dans le New York Times et dans le Boston Globe, vous savez, le journal qui avait fait cette cellule d'enquête qui s'appelait Spotlight, ils en avaient fait un film qui s'appelait Spotlight, qui a eu l'Oscar du meilleur film en 2016. Ben, Spotlight a fait une enquête sur les pratiques de la photographie de mode et c'était totalement terrifiant. C'est sorti en février dernier. Et il y a des noms qui sont sortis, de grands photographes et tout ça, de grandes maisons aussi qui sont sorties. Et c'était harcèlement sexuel à gogo, enfin des choses vraiment, vraiment sinistres.
C'est pour ça que les mannequins font toujours la gueule sur les photos. Ça, c'est une question que je me pose. Depuis des années et des années, dans les défilés, on voit pratiquement jamais les mannequins sourire.
Elles le font moins maintenant.
Elles se remettent un tout petit peu à sourrire.
Ah bon?
Elles se remettent un tout comme les petit peu à sourire.
C'est une question plastique, physique, pour
les
photos.
Non, c'est parce qu'en fait, ils vous le disent jamais, mais la réponse, elle est toute bête. C'est qu'en fait, ils prennent des filles de 16 ans parce que pour avoir une carrure extrêmement maigre. Et en fait, si elles sourient, enfin, si elles sourient pas, elle a l'air d'une femme. Enfin, elle peut passer pour une femme adulte. Si elle sourit, tout d'un coup, elle a l'air d'une enfant.
Elle a les dents écartées.
C'est vraiment de l'escroquerie, donc.
C'est de la grosse escroquerie.
Oui, et ça s'arrange toujours pas.
Sur
les mannequins,
la diversité, diversité pondérale, elle est pas là, mais la diversité ethnique, elle arrive.
Ouais.
Vraiment, enfin. Il était temps.
Ouais, il était temps.
Et c'est un scandale que ça arrive que maintenant, mais bon.
Mais Pondéral aussi, c'est un scandale aussi.
Ah, Pondéral, c'est hallucinant.
Non, mais Gauthier ou Isabelle Marant, ils aiment bien que les gens sourient.
Oui, mais c'est vrai.
Est-ce qu'ils les aiment en chair? Parce que c'est ça la vraie question aussi.
Paris aime, apparemment, dans les agences, ils disent qu'il y a une minceur Paris, qui veut plutôt dire une maigreur Paris. Et donc Paris, et comme c'est la dernière ville où on défile, les mannequins, se sont pas beaucoup alimentés, on va dire, pendant les trois villes qui précèdent, New York, Milan et Londres. Ce qui fait que quand elles arrivent à Paris, elles sont vraiment
ensemble,
des petites cuillères.
C'est fou, vous les voyez, vous, dans les coulisses des défilés?
Ah, moi, c'est atroce. C'est atroce, je les vois, on leur donne des sandwichs, elles ouvrent le sandwich, elles mangent les deux feuilles de salade, elles referment le sandwich. Et personne ne dit rien.
Ils veulent des porte-manteaux.
Ils cherchent
des
cintres en métal.
Ouais, d'accord. Un dernier mot sur vos tweets qui nous régalent toujours autant, Loïc Prigent, parce qu'on vous connaît pour les documentaires sur Canal, sur Arte aussi, sur les grandes maisons et sur les grands événements de la mode.
C'est possible que je ne le connaisse pas, moi.
Enfin, il faut. On va
vous dire. Fallait venir à France Inter.
Ah ouais, il faut vraiment voir les documentaires de Loïc Prigent parce qu'il y a un ton, il y a que lui qui peut nous faire pénétrer ainsi dans les coulisses de la mode. Vos tweets sont devenus cultes parce qu'ils révèlent aussi une façon de se moquer de la mode. mode et de parfois d'une superficialité assez insolente. Est-ce que la mode rit d'elle-même en réalité ?
Oh oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui, ils sont conscients d'être de l'absurdité. Ils sont conscients de marcher sur la tête. C'est déjà ça, je trouve.
Et vous êtes toujours le bienvenu au défilé, même vous donnez quelques infos sur les coulisses.
Mais oui, mais parce qu'on marche main dans la main, la tête à l'envers, mais ça c'est plutôt bien. Moi, j'ai toujours aimé ça dans la mode.
Et le prochain portrait de créateur ?
Là, je travaille sur les dessins de Christian Dior. Donc raconter la vie de Christian Dior à travers ses dessins en fait. Burn-out de mode qu'il a peut-être un peu fait.
Merci à vous Loïc Prigent.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Dans la deuxième partie de l'émission, Tanguy Pastureau sera là pour démonter l'info, mais vous êtes déjà là Tanguy. Tanguy, j'ai envie de vous dire quelque chose. Plus je vieillis, plus je trouve que les gens sont méchants.
Bon, c'est pas vous Daniel. D'ailleurs là, je vous va bien comme il va bien Georges Clooney, mais de façon totalement différente. Non, c'est juste que l'époque est dure et l'humanité glauque. Par exemple, sur Internet, toutes les 24 heures sont échangés 200 000 messages d'insultes, aussi bien t'es une raclure que t'es coiffé comme Jean-Jacques Bourdin. C'est le résultat d'une étude affolante qui révèle, Daniel, qu'Internet égale haine.
Très bien, bon, on a hâte de vous retrouver en deuxième, mais enfin surtout moi. Quelle saleté.
Oui, Daniel.
Dans la deuxième partie de l'émission, nous retrouverons Jean-Marie Perrier, qui, je l'espère, restera avec nous jusqu'à midi et demi. Jean-Marie Perrier, c'est Fashion Galaxy, photo 12 galeries jusqu'au 12 mai, 14 rue Desjardins-Saint-Paul, dans le 4e arrondissement de Paris. À tout de suite. C'est le retour de la bande originale avec Guillermo Guise, Frédéric Sigrist, Albert Algou, Tanguy Pastureau qu'on retrouve dans quelques instants pour sa maltraitance de l'info. Nagui n'est toujours pas ici, on est ravis, bien entendu. À la droite, il y a Kadour Boudadi.
Salut à tous, salut Daniel, et notre invité est Jean-Marie Perrier.
Ouais, Jean-Marie.
Jean-Marie Perrier, qui est resté avec nous, qui ne nous a pas quittés, qui est bien avec nous. Vous êtes heureux avec nous.
Je suis vraiment content d'avoir rencontré ce titre-là.
Eh ben, Loïc Prigent.
C'est rare, un type qui a un discours intelligent sur la mode.
Oh, les gens qui ont un discours intelligent tout court, vous savez, on sait que c'est rare. Hein. Tous les jours, on est confronté au problème.
Loïc Prigent, vous vous retrouvez avec Mademoiselle Agnès pour décoder cet univers impitoyable. Revenons à vous, Jean-Marie, à vos clichés, des clichés parfois inédits qu'on peut admirer à la galerie Photo 12 dans le Marais à Paris, Fashion Galaxy. Les plus grands se sont prêtés à votre mise en scène, ont accepté d'être capturés. Les séances photos duraient longtemps. J'imagine que quand vous parlez de l'emploi du temps d'un Lagerfeld, d'un Lacroix, d'un Galliano, peu importe, même d'un Asdine Alaïa, ils avaient autre chose à faire que de rester devant votre objectif. Étaient patients avec vous ?
Ils étaient patients pour une raison simple, c'est que je vais toujours été très très vite, parce que il n'y a rien de pire qu'un photographe lent. Ouais. C'est ennuyeux de se faire photographier, mais alors si en plus le mec vous tourne autour pendant 4 heures, c'est vraiment un cauchemar. Donc moi, il suffit de savoir ce qu'on veut faire avant. De toute façon, toutes les photos que j'ai faites, tout est toujours mis en scène, depuis toujours. Ouais. Donc, à partir du moment où on sait ce qu'on veut, bon, ça va vite, voyez.
Et qu'est-ce qui prend en photo Jean-Marie Perrier ?
Pas beaucoup de gens, parce que je l'en fais le moins possible. Ouais, non, puis j'aime pas ça du tout. J'aime pas être filmé, j'aime pas être... Encore que, filmer, c'est plus facile.
Parce qu'il
y a le mouvement, ça permet tout. Puis de toute façon, en plus, j'ai remarqué un truc, je sais pas pourquoi je parle de ça, j'ai remarqué qu'à la télé, ce qu'on dit n'a pas d'importance en réalité. C'est pas les mots qui comptent, c'est la musique des mots. Ce qu'il faut, c'est pas ce que vous dites, c'est la façon de le dire.
Hein,
regardez, il y a des grands hommes politiques qui ont compris ça depuis très longtemps. Un type comme Pasqua, il disait n'importe quoi, tout le monde l'entendait. Alors que
c'est vrai.
Non mais c'est vrai. Alors que Rocard, qui était un type génial, on comprenait rien. Donc c'est vraiment la musique compte énormément. Pardon, je vous ai coupé.
Non mais non, je me demandais s'il y avait une dimension aussi militante quand je vois le cliché de Jean-Paul Gaultier habillé en pape. Qu'est-ce que vous vouliez faire là tous les
en
deux pas, c'est son idée
en pape un peu blessé, non, mais un peu blessé.
Il me semble me souvenir que l'idée était de lui
d'ailleurs. C'est une façon d'être un peu engagé d'envoyer un petit
message
sauter
dessus, mais oui, parce que bon, c'était 2 ans après que le pape ait décidé d'interdire la contraception aux Africaines. Encore une bonne idée, merci beaucoup. Donc lui, évidemment, ça l'avait choqué comme beaucoup de gens. Il a eu cette idée. J'ai sauté dessus dans la seconde, évidemment. Et il avait rajouté le petit ruban rouge, synonyme de lutte contre cette infamie. Donc voilà. Bon, c'est comme ça que venaient les idées aussi, beaucoup en parlant. Hein. Oui. Et puis, vous savez, l'idée qu'on se fait de quelqu'un, c'est très important. Moi, mon boulot, c'est de les mettre en valeur. Bon, à partir de là, je me fais une idée sur quelqu'un. À partir du moment où on a une idée sur quelqu'un et qu'on veut le mettre en valeur, bon, bah, c'est pas dur de travailler, quoi. Hein.
Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez photographier
Non.
Photographier aujourd'hui ou alors à l'époque Non, mais à l'époque, il n'y a pas quelqu'un qui vous inspire. Est-ce que ça vous aurait tenté?
Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que ouais. Je comprends votre question, mais je vais
mais
vous dire.
Mais
t'as pourquoi. Non, mais je vais vous dire
pas.
Pourquoi. C'est pas ça, c'est Tant simplement que, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, je travaille pour quelqu'un, pour séduire quelqu'un. Mm. Sans ça, je m'en fous. J'ai mes ânesses là qui m'attendent d'ailleurs dans mon pré et tout. Bon,
est-ce
là,
que vous
ça
avez
va.
Été déçu par quelqu'un ?
J'ai été déçu une seule fois, oui. Une seule fois par Steve McQueen, je ne sais pas pourquoi. J'aimais beaucoup cet acteur et j'étais allé le voir en Espagne y tourner un film. On était là avec ma sœur Anne-Marie. Elle faisait Mademoiselle H. Tendre à l'époque, c'était gamine. Bon, on va là-bas, on arrive. Là, il y a une dame qui nous dit oui. Alors écoutez, c'est demain matin 10h. Bon, d'accord. Le lendemain matin, on arrive. Il dit ah non, il peut pas là. Donc ce sera demain matin 10h. Il fait ça 3 jours d'affilée. Le troisième jour, on arrive. Il est assis en train de se taper un petit déjeuner sur sa terrasse. Il nous dit pas bonjour. Et au bout de 3 minutes, il se lève. Ils disent bon, voilà, vous avez 3 minutes pour faire les photos.
Wow.
Alors j'ai fait clic-clac. Je lui ai serré la main. Je lui ai dit au revoir mon pote et je suis parti. C'est la seule fois de ma vie que ça s'est mal passé. La seule. Ça s'est toujours bien passé avec tout le monde. Mais il faut dire que je suis charmant comme mec.
Hein. Oui, c'est ce que je voulais dire.
C'est pour ça que c'est assez incompréhensible.
En tout cas, ces clichés sont magnifiques. J'ai pensé aussi au travail d'Annie Leibovitz, parce que c'est ça, cette façon de capturer comme ça, tout d'un coup, une
très grande photographe.
Grande
oui.
Célébrité, bah, c'est exactement
du
même
acabit. Vous voyez, c'est une grande photographe.
Oui.
Moi, je n'ai pas la prétention d'être un grand photographe. Moi, je suis un bon photographe qui a eu de la chance.
Ah.
Mais la chance, ça fait partie du talent, hein, très important.
Est-ce qu'une grande photographe, c'est pas aussi une photographe qui a eu de la chance ?
Non, c'est quelqu'un qui, d'abord, c'est quelqu'un qui veut être grand photographe, qui n'a jamais été mon cas, et c'est quelqu'un qui fait la même chose toute sa vie. Putain, moi, j'ai pas arrêté de changer de vie et de métier, donc non, je suis pas sérieux comme mec. Tandis qu'elle, voilà. Ça, non, mais en France, par exemple, celui que je préfère, c'est Jean-Paul Goude.
Ouais.
Parce que Jean-Paul Goude, il a fait, je le connais depuis la fin des années 50, ce qu'il fait, c'est le même sillon. Voilà, ça, j'admire. Moi, je suis un dilettante.
Mais vous êtes incapable de rester en place.
Oui, je suis un dilettante et je le revendique d'ailleurs, mais c'est pour ça que j'appartiens pas à ce siècle du tout. J'appartiens au dernier et encore au début.
Attends, je vais vous présenter quelqu'un qui ferait passer Steve McQueen pour quelqu'un de fort sympathique. Tanguy Pastureau, qui maltraite l'enfant.
Et vous savez que j'ai été photographié par Jean-Marie Perrier.
Ah oui,
oui, j'ai été photographié par Jean-Marie Perrier.
Et la photo était dans le Nouvel
Obs. Il y a 2 ans, c'était pour la rentrée de Paris Première. C'est lui qui avait fait toutes les photos.
Ah.
J'étais à côté de mon pote Éric Zemmour. Tout allait bien, c'était chouette.
Ah ben quand t'es photographié à côté de Zemmour, la vie est belle. Tanguy,
justement, j'ai une gêne, là, ou pas
cette belle France Inter. Nous avons de bons rapports, tous ici autour de la table.
Oui.
Et je suis heureux.
Oui, je sais, Daniel, votre mine réjouie fait plaisir à voir. Ah. Quand vous êtes épanoui, vous avez l'air plus jeune de 10 ans et ne faites donc plus que la grosse cinquantaine. Leïla, vous aussi, vous souriez à la vie et c'est beau car vous avez des dents superbes. Vous êtes la Cyril Ferraud de la culture, la Jean-Marc Morandini du Bibliobus. Si un rayon de soleil se reflète sur votre incisive et vient frapper l'iris de Daniel, ce dernier perdra l'usage de son œil et sera redirigé professionnellement vers l'attraction Pirates des Caraïbes à Disneyland, on n'a besoin que d'un œil. Ou en tant qu'acteur vers le biopic de Jean-Marie Le Pen, on n'a besoin que d'un œil. Où il interprétera le rôle de Le Pen à la fin de sa vie. Oui, nous sommes contents. Cui-cui, les oiseaux chantent. I-an, les ânes braient. Choose France, yes man, bottom up, les fans de Macron s'exclament. Mais ça, ce n'est pas la vraie vie, c'est le show business. On fait semblant d'être cool, on applaudit, on fait mine d'apprécier les gens du public, alors qu'on sait qu'ils ne nous méritent pas. Tout est faux. Pensez-vous vraiment que Bruno Guillon, à l'issue d'un enregistrement des Amours où Monique, 61 ans, a révélé que son mari René, 64 ans, a des flatulences nocturnes, a envie de célébrer l'existence ? Non, il pleure dans sa loge, anciennement celle de Tex, où sont restées accrochées les pages blagues du TéléZ, sur lesquelles Tex avait écrit « Niveau à atteindre ». Croyez-vous que Brigitte Macron profite de la vie, engoncée dans des tenues Vuitton inconfortables, alors qu'elle pourrait traîner en bas de survêt comme Giroud, en attendant que son mari, bébé Napoléon, revienne à la
Casbah une fois qu'il a terminé d'installer 400 startups dans la Creuse? Non, elle espère juste la délivrance en 2022 et nourrit ses poules dans le jardin de l'Élysée, sous l'œil amusé de Karine Lemarchand, venue lui présenter Jean-Paul, un éleveur de chèvres, dont la dernière relation sexuelle remonte à 72 et encore c'était un trou de taupe. Nous vivons dans une comédie musicale permanente, mais les gens de la vraie vie, eux, vivent dans une chanson du rappeur Jul entre le mot tub et le mot shit. Ils sont donc énervés, or beaucoup habitent en Corrèze et là-bas il n'y a pas de cours de kung-fu. Pour se défouler, on peut juste rouler sur François Hollande à la sortie du balto en criant ça c'est pour la France, mais bon c'est interdit. Alors l'homme contemporain, afin de canaliser sa rage, se connecte donc à Internet, hein, ce réseau destiné à nous faire perdre une vie entière à lire des infos à la con sur Facebook, contrairement à nos ancêtres qui lisaient des infos à la con dans Libération. Et il se lâche, telle une corde vocale de Tina Arena, quand elle pousse la voix en espérant que ça cachera l'inanité des paroles de ses chansons. Comme aimer jusqu'à l'impossible, c'est possible.
C'est de là que ça vient finalement, Tanguy, ces messages de haine sur Internet
oui,
qui sont partout.
Mais bien sûr, les gens sont gentils avec vous puisqu'ils savent que vous avez une vie de galère. C'est vous qui, le week-end sur la 2, devez nettoyer à la lingette les sécrétions de Laurent Delahousse qui ont giclé sur la table au moment où il croisait son reflet dans l'œil d'une caméra. Vous, vous êtes préservés. Mais à part vous, tout le monde en prend plein la tête. Une étude réalisée par une agence d'analyse du web. Ce sont des gens qui se laissent pousser un collier de barbe, allument une pipe, puis démarrent Google Chrome d'un air emprunté. Révèle que sur 24 heures, 200 400 messages d'insultes sont échangés sur le web français, celui de la start-up nation que nous on a. Cela fait 2 insultes à la seconde. C'est comme si moi, pauvre con, je truffais enfoiré. Mes chroniques, islamo-gauchistes de merde, de jurons, neveu de communistes, juste destinés à me, fan d'Amel Bent, défouler. Mais je ne fais pas ça, bande d'enflure, parce que je sais les tâcherons, que je suis écouté sur Inter par des profs, ces gens respectables payés une misère pour éduquer des ados moches en bas de jogging. Alors seulement sur le net, il y a l'anonymat. Hein, cette fille, Lolicat Hot 75, ne s'appelle pas en vrai Lolicat Hot 75, mais Amadou, qui est à Dakar. Et il va finir par te demander du fric, en promettant ensuite de coucher avec toi. Enfin, pas lui, mais Lolicat Hot 75. Je le sais, je me suis fait avoir par Fichot de Paris, qui me disait « Super tes chroniques », c'était un peu gros, hein, et à qui j'ai envoyé un mandat cash, parce qu'elle me disait que si je voulais pas lui faire l'amour, Sigrist, lui, avait déjà donné son accord en signant ton gros loup humide. Bref, en 24 heures de temps, 200 000 messages de haine sont postés. Dès qu'un individu écrit un commentaire quel qu'il soit, ça génère 10 autres commentaires lui recommandant d'aller crever en tant que fils de chien semi-facho qui ferait mieux de fermer sa GG. Alors ça, c'est quand l'internaute a la flemme d'écrire « grande gueule hein. ». TG, c'est « ta gueule ». En fait, dès qu'il y a un G, c'est « gueule hein. ». Ainsi, CSG signifie « tu raques et tu fermes ta gueule hein, ». Voilà, c'est important un peu de populisme pour qu'une chronique marche. D'ailleurs, je voudrais dire que les politiques de gauche comme de droite sont tous méchants. Et encore, les gens qui ont fait l'étude précisent qu'ils n'ont pas retenu les insultes à caractère raciste et antisémite. Alors que c'est la base. Internet s'est construit là-dessus. Vous enlevez les noirs et les juifs, demain tout le monde rend sa frimox en disant « ah bah ça va mieux, je me sens zen. Maintenant sur le net, il n'y a plus que moi et ma sœur. Une Lorraine aux yeux clairs et aux tétons roses, parfois le contraire quand j'ai bu. Je vais quand même pas l'insulter, même si c'est vrai que c'est une poufiasse. Bon en fait, rendez-moi la frimox. » Alors bien entendu, tout ça ne concerne que le monde virtuel. Dans la vraie vie, quand vous dites « je suis d'accord avec la politique de Macron », il n'y a pas une personne qui immédiatement ajoute « allez vous faire pendre, toi et ta mère la bougnoule ». Sinon, toute vie sociale serait impossible. Donc déconnectons-nous et moi, je vous aime tous, oui. Enfin presque tous, à part 2-3 connards.
Sur France Inter. Et il faut dire que Tanguy Pastureau sera tout le mois de mai au Théâtre La Cible à Paris, les mercredis et les jeudis à 19h. Une belle nouvelle, ça, de retrouver Tanguy sur scène. Et puis, alors, on a parlé de Guillermo. Faut pas oublier aussi Frédéric Sigrist, bon, comme si. Ça. Parce que moi, je fais pas de, hein, pas de jaloux, les garçons. Donc, Frédéric Sigrist au Funambule.
Au Funambule.
Et voilà.
Et Jean-Jacques Lang, son rêve, ce sera juste après Lazy Boy, Franz Ferdinand. Get up, never. I'm a lazy boy, I'm a lazy boy. All
considère qu'il y a une sacrée ambiance. Franz Ferdinand, Lazy Boy, un titre qui est sorti cette année, Leïla, vous aviez raison.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, bah, voilà, bah,
je trouvais
oui.
que c'était un peu récent pour un,
voilà, ah,
un Franz Ferdinand. Mais j'expliquais à Jean-Marie Perrier qui trouvait le Franz Ferdinand plutôt à son goût.
Ah oui, c'était bien.
Plutôt à son goût. Et on était en train de discuter, disserter un petit peu sur l'Aveyron, parce que c'est aussi l'autre amour de Jean-Marie Perrier.
Ah oui, l'Aveyron, c'est magnifique. Mais c'est magnifique d'abord parce que c'est loin de Paris et difficile d'accès. Ils n'aiment pas du tout quand je dis ça, mais en même temps, c'est vrai. Parce que regardez, dès qu'il y a le TGV, les crétins arrivent. Hein, donc ça y est, c'est fini. Ça commence à construire partout.
Mais je dois y aller bien dans l'amour. Mais
c'est vrai, là-bas, il y a des gens normaux.
Ah oui,
si vous, parce que vous allez dans le Gers ou dans le Périgord, je parle pas de Luberon, vous allez le matin au café, vous avez l'impression d'être au Flore, je vois pas l'intérêt. Tandis que là-bas, je peux vous dire, c'est des vrais.
Mais pour que les gens se rendent mieux compte, vous pouvez donner votre adresse?
12260, Villeneuve d'Aveyron. Pour moi, c'est le centre du monde maintenant.
Quels sont les projets dans les semaines, dans les mois à venir? Là, vous consacrez beaucoup de temps à l'écriture, je crois.
Oui, j'écris des livres, j'en écris un, je fais un spectacle un peu partout en France, mais comme ça, juste comme...
Alors le spectacle, racontez-nous.
Oui, non, mais ça, vous savez, je tiens pas du tout à faire publicité là-dessus, moi, c'est juste pour aller voir des gens loin, dans au fin fond de la France, des gens qui, eux, parfois, doivent faire 50 km pour voir un spectacle.
C'est le spectacle qui se déplace pour aller voir
les
gens.
Oui, oui, parce qu'il y a un grand écran derrière moi, un ingénieur du son qui met des musiques, et je raconte toutes les années 60 avec des photos qui sont mises en mesure. Enfin bon, je m'amuse, et puis surtout, je veux pas que ça devienne un travail, hein, je fais ça pour rigoler, moi. Mais... je fais ça, je fais aussi donc des chroniques dans le Villefranchois. Je vous signale que le Villefranchois, ça, c'est un journal, mes amis, c'est le journal local.
Le quotidien local.
Oui, absolument. Okay. Donc j'ai été voir le type de journal du coin, je lui ai dit, écoutez, voilà, moi je vous demande rien, vous me donnez une demi-page ou une page, comme vous voulez, à la fin, tous les 15 jours, 3 semaines, je ferai une photo et un article sur quelqu'un de la région. Alors, une semaine, il y avait le boucher de Villefranche de Rouergue, et la semaine suivante, il y avait Alain Delon, parce que je mélangeais, tu vois. Une semaine comme ça, c'était très marrant. Et au moins, ils étaient traités pareil. Et puis, je fais des expositions. Alors là, partout, mais même dans le monde. Vous pouvez pas imaginer, c'est grotesque. Là, j'en ai fait une à Moscou, une à Londres, une
Pourquoi
à Saint-Pétersbourg.
Pourquoi c'est grotesque?
Non, mais c'est grotesque parce que si vous voulez, il y a 50 ans, 60 ans, ces photos n'avaient aucun intérêt pour personne, à part pour les mômes. Elles étaient faites pour être mises au mur des chambrettes des adolescents. Maintenant, il y a des mecs qui les achètent très cher. Moi, je me plains pas, mais enfin bon, pour les mettre à nouveau sur leur mur, sauf qu'ils ont entre 60 ans et 80. C'est les mêmes.
Bah, c'est pas stupide du tout, c'est plutôt pas
non,
mal.
Non, mais ce qui est grotesque, c'était une figure littéraire. Non, ouais. Ce que je veux dire, c'est que je m'y attendais pas du tout, c'était pas prévu. Vous comprenez? C'est ça qui est amusant et qui est gai.
Et vous avez encore beaucoup de clichés comme ça que vous n'avez pas encore montré?
Oui, il y en a. Ah. Car j'ai récupéré toutes mes archives physiques, si vous voulez, que j'avais pas vues depuis 30-40 ans. Parce qu'en fait, vous savez que je les avais oubliées, moi, ces photos des années 60.
C'est Steve McQueen qui vous les avait chourées.
Non, c'est Étienne Dao qui m'a...
Ah,
mais
le
non,
salaud.
Non, mais non. C'est Étienne Dao qui, à la fin des années 80, m'a dit, vous savez, vos photos, vous devriez les ressortir. Et moi, je les avais oubliées. Et c'est grâce à lui que je les ai ressorties.
Formidable.
Merci, Étienne.
Et ben, on continue d'en parler juste après le rêve.
Ah, juste après le rêve. Lui aussi, on l'appelle quelquefois le boucher de Villefranche. C'est Jean-Jacques Lang qui a fait un rêve.
C'est vrai. Très cher Leïla, très cher Daniel,
oui.
Le 26 avril étant le jour où l'on fête les Aldo, pour me détendre hier soir, je me suis repassé les films que mon ami Aldo Machone transcenda non seulement par son jeu subtil et sa faconde incomparable, mais aussi par sa démarche qui fut au cinéma ce que le moonwalk de Michael Jackson fut au musical, ou ce que fut pour l'humanité le petit pas sur la lune de Neil Armstrong, en fait un pas de géant.
Vous n'exagérez pas un peu de Jean-Jacques quand vous faites ces comparaisons à la gloire d'Aldo Machone?
Mais enfin, je suis en train de démontrer que l'on peut magnifier les œuvres les plus plates en les enjolivant du lyrisme le plus ardent. Un peu ce que vous faites régulièrement, avec brio, je le reconnais, cher Leïla, cher Daniel, dans la bande originale, en encensant en direct des films qu'hors antenne, vous n'hésitez pas à qualifier de navet. Partant de la démarche ridicule d'Aldo Machone, j'en suis venu à des considérations historiques, métaphysiques, astronomiques, cosmiques, cosmogoniques, des tas de trucs en nique. Vous ne croyez pas si bien dire, cher Daniel, car effectivement,
quand je visionne des films, d'Aldo Maggione, comme Plus moche que Frankenstein tu meurs, Lâche-moi les jartelles, Tais-toi quand tu parles, ou Te marre pas c'est pour rire, et d'autres oxymorons, quand je visionne ces films, disais-je, je m'assoupis. Et quand je m'assoupis, je m'endors. Et quand je m'endors, je rêve. Dans mon rêve, je tombais sur Jean-Philippe Manœuvre, le cousin du célèbre rock critique. Hey Gigi, faut que tu m'arranges un plan. Aujourd'hui dans la bio, l'invité c'est GMP, Jean-Marie Perrier, c'est dingue. Si Jean-Philippe m'avait lancé « Perrier, c'est fou », bien qu'adepte de la non-violence, je l'aurais giflé violemment pour avoir ressorti une blague dont les oreilles de Jean-Marie ont dû être rebattues mille et mille fois par des ringards se croyant drôles. Mais déjà, Jean-Philippe Manœuvre enchaînait. Avec mon cousin, au début des 60s, avec nos Ray-Ban et nos Perfecto, on était déjà les plus vieux ados de France, et même du monde. Alors je comprends pas pourquoi GMP nous avait pas photographiés pour SLC. Salut les copains, comme il l'avait fait avec Johnny, Eddie, Anthony, Monty, Sylvie, Hardy. Donc Gigi, comme tu vas rencontrer GMP dans la bio, demande-lui de me photographier. I'm ready for a fucking shooting. Mais enfin, je te rappelle que tu te trouves dans mon rêve. Aussi est-il impossible que Jean-Marie Perrier, qui lui ne se trouve pas dans mon rêve, puisse te photographier. Damn bullshit, si c'est comme ça, je reviendrai jamais dans tes fucking dreams. So long, Gigi. À peine Jean-Philippe avait-il tourné les talons de ses Santiags qu'arrivé à la machine à café, je fus abordé par le cousin d'un célèbre chanteur, jadis photographié, lui aussi par Jean-Marie Perrier, je me souviens, il était en diablotin à cheval sur un balai. Oh yeah, salut Gigi, je suis Jean-Dick Rivers, le cousin de Dick. Salut Jean-Dick, à ce que je vois, tu as la banane, et quelle ressemblance frappante, confondante, troublante, étonnante, stupéfiante avec ton cousin. De quoi être adulé par tous les fans qui estimèrent Dick, qui acclamèrent Dick, qui aimèrent Dick. Oh yeah, arrête tes calembours et paye-moi plutôt un café. Il est vrai que ces jeux de mots sont un peu primaires, Dick. Et même un peu sadique, Rivers. Si c'est ça, je retourne à 10. Si t'avais connu ni sa moitié, ça ne peut plus durer. À ce moment, le sifflement de ma cafetière réveil matin me sortit de mon rêve. Je me versais une tasse, mais bizarrement, je trouvais que le café avait un goût un peu amer, Dick. Bonne fin d'émission.
France Inter.
C'est grotesque.
Totalement possédé.
Voilà, ben Jean-Marie, voilà, vous avez donné un petit aperçu de l'ambiance autour de la table tous les jours. Alors, je vais rappeler simplement Fashion Galaxy à la Galerie Photo 12 à Paris, dans le Marais, pour découvrir vos plus beaux clichés, en tout cas ceux que vous avez sélectionnés, pour rendre hommage à ces grands créateurs de mode. C'était un plaisir de vous avoir avec nous.
Je vous remercie, c'était très gai.
Il est temps de présenter nos excuses, parce que je pense qu'on vous a aussi un peu consterné.
Et déjà, désolé pour les Américains qui ont appris ce matin que Jean-Marie Perrier préférait les voir en film plutôt qu'en vrai. En même temps, bande de nazes, ça peut se comprendre, non ? Désolé pour la rédaction de Closer qui a appris ce matin que Jean-Marie Perrier préférait travailler pour le magazine Elle. En même temps, bande de nazes, ça peut se comprendre, non ? Désolé pour les fans de Frédéric Sigrist qui, comme nous, ont été plutôt étonnés, bouleversés, voire déçus par la haute qualité littéraire du texte de leur idole. En même temps, bande de nazes, je vous comprends.
Merci Jean-Marie Perrier, merci à vous d'avoir fait le déplacement jusqu'à Paris, d'avoir quitté l'Aveyron pour nous rendre visite.
Votre adresse sera sur le site de l'émission pour que tout le monde puisse venir vous voir et profiter de ce lieu magique apparemment.
Absolument, et demain on se retrouve pour la bande originale à nouveau. Nos invités seront Marie Gillin et Barbara Probst pour la série Speakerine diffusée sur France 2.
Oui, et venez nombreux, c'est la dernière journée sans Nagui, vous allez pouvoir en profiter. À suivre, Carnet de campagne, Philippe Bertrand. Bonne journée à l'écoute de France Inter.